C'est l'heure de poursuivre notre visite insolite de la France avec Christian Cayol. Bonjour Christian.
Bonjour Francis, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, tu as sorti le chapeau et les bottes du marin pour nous faire visiter la Corse hors des sentiers battus.
Oui, absolument. Cette fois, on y est. Il y avait longtemps que je voulais y aller. Alors, la vidéo, je l'ai appelée plan hors sec parce que hors sec, c'est la Corse dans tous les sens. Effectivement, aujourd'hui, je vous amène en Corse. Alors, j'ai pas les bottes, j'ai pas le chapeau. Si, je les ai un peu dans le coffre quand même.
Oui, au cas où tu serais en bordure.
Au cas où, parce que bon, on est toujours pas très loin de la mer. Voilà, donc la Corse en tous sens, c'est une montagne dans la mer, hein, la Corse, pour ceux qui y sont allés. Je l'ai parcouru d'un cap à l'autre, en travers aussi, mais alors là, ça se corse, puisque les distances se calculent en temps, mais pas en kilomètres. La conduite n'est pas difficile si on évite les chèvres, les vaches, les cochons, de prendre des photos, et si on se limite à 50 km/h. Mais ici, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il faut en voir le plus possible. Alors, il faut juste faire des choix. C'est ça le plus compliqué. Plage paradisiaque, point de vue de l'arrière du pays, ou bien les innombrables sites antiques et préhistoriques. Quant aux villes, vous savez, je redoute un peu le monde. Alors, je vous en parle rarement. Pour du coup, je suis encore plus convaincu. Je ne ferai pas ou très peu d'incursions citadines. Voici pratiquement la seule que je ferai. La maison de Bonaparte à Ajaccio. Je la considère comme étant le piège à éviter. Quelques meubles, deux fauteuils, un lit dans lequel sa mère aurait peut-être accouché. Bonaparte n'a vécu ici que jusqu'à ses 9 ans. Et puis, des copies d'objets, quelques panneaux racontant la vie de sa famille, celle de Napoléon III ou encore celle de Paoli. Au moins, cette visite aura le mérite de me faire découvrir Paoli. Pascal Paoli. En effet, je n'avais jamais entendu parler de ce personnage. Il est pourtant considéré comme le père de la patrie corse. Alors, plutôt que de vous parler de Napoléon, voici son histoire, en raccourci. Son père, Giacinto Paoli, participe à l'insurrection contre la République de Gênes et la fondation en 1736, du royaume indépendant de Corse. J'avais jamais entendu dire que la Corse avait eu ce régime d'indépendance. Après l'intervention des troupes françaises en 1739, la famille trouve refuge à Naples. Pascal Paoli a 14 ans. Après une formation puis une carrière militaire, Pascal Paoli, brillant intellectuel, se sent très proche des penseurs libéraux qui exercent sur lui une sorte d'emprise. C'est alors qu'il est appelé par les principaux chefs corses révoltés contre Gênes. En 1755, il est élu général en chef de la nation corse et prend la tête de l'État corse jusqu'en 1763. Il fera voter une constitution corse, la première à accorder le droit de vote aux femmes. Malgré quelques erreurs, la Corse apparaît à l'Europe des Lumières comme étant le premier État démocratique. La République de Gênes, criblée de dettes, demande de l'aide à Louis XV, qui va lui prêter 2 millions de livres en échange de la Corse, qu'elle ne possède déjà plus en fait. Bien décidés à défendre leur indépendance, les paulistes font face aux troupes françaises jusqu'à la déroute en 1769. Paoli, contraint à l'exil, trouve refuge en Grande-Bretagne, avec 500 ou 600 partisans. La Corse perd son indépendance. Les habitants deviennent sujets de Louis XV. Après 20 ans, en 1790, Paoli se rallie à la Révolution française. Il est accueilli par Lafayette, à l'Assemblée nationale, laquelle le nommera commandant de l'île. La population corse lui fait un triomphe. Les relations avec la Convention se ternissent. Paoli est déclaré traître à la République pour ses tractations bien fondées avec l'Angleterre. À partir de 1793, en réaction au régime de la terreur, qu'il considère comme une dérive de la Révolution, bien loin des idées fondatrices, Paoli fait appel à l'Angleterre afin de soutenir ses projets d'indépendance. Il ralliera, en 1794-1795, le nouveau royaume anglo-corse et le gouverneur de Bastia, représentant du roi d'Angleterre, George III. C'est alors que les affrontements entre troupes anglaises, française et résistance corse ont lieu, ruinant de nombreuses villes. En 1795, le régime anglo-corse s'effondre et l'aventure de 60 ans se termine, 1736-1796. Paoli quitte définitivement et à regret la Corse pour un nouvel exil à Londres. Il mourra en 1807. Le mythe du père de la patrie reste encore bien présent dans l'île. Il a sans doute inspiré une partie des patriotes américains pour que pas moins de 5 communes américaines portent son nom. Cette histoire peu connue d'un fils de meunier doté d'une culture exceptionnelle aura passionné l'Europe des Lumières. Paoli sera admiré par le roi de Prusse, Catherine II, Jean-Jacques Rousseau, continuera jusqu'à la fin à défendre ses idées de tolérance. Un véritable héros pour une figure majeure de l'histoire universelle de la liberté. Je pense que c'est le moment d'écouter un extrait de ce qui est considéré comme l'hymne corse, Diuvi Salvi Regina.
Allez, c'est parti, on l'écoute.
Oh,
J'adore. Après cette page d'histoire, pas facile de faire une transition. Parlons de la protection de l'île. Au début de l'émission, je disais une montagne dans la mer. La mer, on n'en est jamais bien loin. De plus, l'île étant un lieu de villégiature, la côte étant en général la destination privilégiée. Des 1000 km côtiers, le littoral est rocheux à 80%. Il est entrecoupé par quelques grandes baies, mais surtout par de minuscules plages de sable fin aux eaux turquoises. Le littoral est relativement peu urbanisé, comparativement à la même frange sur le continent, donne à l'île une image beaucoup plus protectionniste de la nature. Ceci se confirme par une politique de préservation des espaces. En effet, le Conservatoire du littoral, créé en 1975, qui est propriétaire de 20% du littoral côtier, soit 200 km de côte, sur 17 000 hectares, fixe ses objectifs à 45% vers 2050. Sa première acquisition a été Rocapine en 1977. Nous en reparlerons. De plus, il existe une vingtaine de sites naturels remarquables, classés inconstructibles sur 18 000 hectares. Au final, c'est la majeure partie du littoral corse qui est actuellement protégée par le dispositif législatif et réglementaire de l'État. La Corse se singularise par un nombre important d'espèces endémiques qui sont placées sous la protection à l'intérieur de 88 sites, dont 69 terrestres et 19 marins. Alors, dans les espèces endémiques, je ne vais pas vous les citer toutes, mais je vais citer surtout le mouflon corse que tout le monde connaît. Bien sûr, il y a la malmigata, c'est une araignée. La citelle, c'est un petit oiseau. Voilà pour les espèces endémiques, il y en a beaucoup. Dans ces domaines, la Corse est pionnière. Au niveau marin, pour apprécier et se persuader de la qualité de l'eau des fonds marins, rien ne remplacera un petit tour en bateau ou même mieux une plongée. De tels résultats ne peuvent s'obtenir sans sacrifice. C'est le prix à payer en matière de protection de la nature pour sauvegarder une telle qualité. Au minimum, faites le tour des grottes, calanques et falaises à Bonifacio. Un émerveillement incontournable. Un exemple de réglementation. Les magnifiques falaises de Bonifacio sont propriété du Conservatoire du littoral et classées réserves naturelles, ce qui signifie pêche, collecte et cueillette y sont interdits. Idem pour le camping, le bivouac, les feux, dépôts de déchets, circulation de véhicules à moteur et débarquement sur les îlots. On n'a rien sans rien. Parlons maintenant de ces rochers protégés que l'on rencontre souvent en bord de mer, mais pas que. Les taphonies. Des cavités de toute taille, arrondies, résultat de l'érosion, pas toujours clairement expliquées. Souvent dans le granit, mais ils s'en trouvent dans d'autres roches. Au début, les cavités sont petites. On parle de cupules ou d'alvéoles. Quatre facteurs doivent s'associer pour cette formation. Le vent, transportant les embruns. La pluie, qui fait ruisseler l'eau salée dans les failles. Le soleil, qui cristallise le sel, et le sel en lui-même qui fait éclater les roches. Dès la préhistoire, certaines de ces cavités sont aménagées par réduction de l'ouverture à l'aide de murets de pierre ou de branchages. Le site de Rocapine, on en a parlé il y a un instant, entre Sartène et Porto Vecchio, permet d'observer ces roches aux formes fantastiques qui se sont transformées pendant des millénaires, de Tafoni en Orio. Dans le même genre, voici quelques idées de visite. L'Orio de Cani, sur la commune de Sota. Un bloc de pierre, coiffé d'un bonnet pointu, le fait ressembler à la cabane des Schtroumpfs. Il a servi depuis très longtemps d'abri de bergers et de silos à grès. L'intérieur est un peu aménagé. C'est un des plus vastes Orio que l'on puisse trouver. 10 minutes de marche maximum, ne le ratez pas. Et puis l'Orio de Chera. Au pied d'un rocher énorme, il présente un accès protégé par une entrée difficile, en hauteur et de taille réduite. Et maintenant, d'autres rochers, ou plutôt des mégalithes, sur des sites préhistoriques. La Corse dispose d'un passé riche et passionnant. C'est la région méditerranéenne où l'on recense le plus grand nombre de mégalithes, plus de 800. De nombreux vestiges sont visibles, en particulier à Filitosa, Coria et Cucuruzu. Filitosa est un site unique sur la commune de Solacaro. Des sculpteurs de mégalithes ont taillé un grand nombre de menhirs, environ il y a 6000 ans, qui ont été retaillés en statues menhirs autour de 1200 ans avant Jésus-Christ. On retrouve sur ces hommes de pierre épées, poignards, casques et cuirasses. Des détails qui cependant interrogent sans nous donner les significations certaines. Sur le plateau de Coria, un autre site préhistorique, commune de Sartène cette fois, on trouve des alignements de mégalithes, un dolmen et ici encore des statues menhirs. Tout un ensemble de pierres sacrées dans des lieux où se pratiquaient rites, magie, culte. Mais rien de sûr car le mystère plane autour des fonctions symboliques, sociales ou autres quant à l'édification de ces pierres. Une chose est sûre, les alignements de pierres sculptées sont extrêmement rares. On n'en trouve pratiquement qu'en Corse. Le dolmen de Fontanaccia est le plus connu et le mieux conservé de toute l'île. Il est sur le plateau de Coria. Le site archéologique de Tucuruzú, c'est une forteresse édifiée à l'âge du bronze. On est entre moins 3000 et moins 1000. Dominant des terrasses et des abris autrefois habités. L'ensemble est ceinturé par un mur de pierre et en son centre, une tour, lieu de stockage. Pour terminer, la capitale de la Corse romaine et étrusque, Aléria. Les Phocéens fondent, au VIe siècle avant Jésus-Christ, une cité nommée Alalia. Elle est ensuite colonisée par les Étrusques, on est entre moins 500 et moins 250, puis par les Romains, pour une période de 7 siècles. Alalia devient Aléria et prend une allure romaine. Forum, temple, terme, égout. Prosper Mérimée sera le premier à décrire les ruines de la ville antique en 1839. Mais il faudra attendre les années 50 et 60 pour les premières fouilles importantes et la mise à jour du forum. La ville, limitée par un rempart, s'étend sur 11 hectares. Des vestiges découverts lors des fouilles sont exposés au musée. Et là, de riches collections d'amphores, lampes à huile, vases, bracelets aux couleurs intactes. Une quantité de trésors merveilleusement restaurés nous raconte un peu de l'histoire corse. Et puis quoi d'autre? Ne vous attendez pas à ce que je vous raconte le littoral, les plages idylliques, bondées en été, qui ressemblent plus à un enfer qu'à un paradis, pour moi. Les offices de tourisme s'en chargeront. Peut-être vous attendez-vous à ce que je vous indique un lieu secret pour une baignade de rêve, des lieux sublimes, encore peu fréquentés, des criques, quasiment désertes, confidentielles, à couper le souffle. Mieux vaut les demander aux Corses eux-mêmes. Mais pour cela, il faudra crapahuter dans le maquis, louer un 4x4 ou un bateau. Mais vous ne serez certainement pas les seuls à y avoir pensé. Inutile de m'étendre davantage sur ce périple. Si vous souhaitez un dépaysement à deux pas de chez vous, réunissant soleil, bien souvent, mais pas à 100%, des plages, montagnes, sites antiques et préhistoriques, alors oui, laissez-vous tenter par un séjour, mais par pitié, hors saison. Et comme toujours, je termine cette émission, cette balade, par le mot de la fin.
L'aquarelle de Nadine.
L'aquarelle de Nadine, si vous allez voir ma vidéo, je rappelle le site, Rando VTT Vidéo, ou aussi un lien sur le site Radio Galaxie. Alors parmi les choix que Nadine m'a proposés, j'ai choisi celle du grain de sable, au pied des falaises de Bonifacio.
Et on rappelle le nom de la vidéo?
Plan sec.
Voilà.
C'est tout simple. Le mois prochain,
oui,
ce sera Tais-toi et Vonage.
C'est là qu'il te faudra le chapeau et les bottes encore, je pense.
Ah oui, alors là, les bottes, sûr, pas le chapeau. Hein. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce titre? Eh bien, c'est un petit jeu de mots, plus ou moins beau, sur Vonage, la Vonage. C'est quoi? Eh bien, vous le saurez en restant fidèle à moi, à mon émission, sur Radio Galaxie, le mois de décembre. La Vonage.
Ok, ben alors au mois de décembre, merci.
Allez,
Christian.
Allez, rendez-vous en décembre, au revoir.